Une bibliothèque qui ne serait pas parfaite, quelle horreur! Forcément incomplète, mais éclectique, mouvante, unique. Il y aurait un peu de celle de mes grands-parents, tiens, si gourmande, où pas un recoin n'était recouvert de polars. Un peu de celle qu'on avait en Angleterre, essentiellement étrangère. Un peu de celle du CDI du collège, si généreuse, puisqu'on y empruntait avec la certitude qu'on ne rendrait jamais. Un peu de celle de Sainte-Geneviève, amoureuse, séductrice, érotique. De celle d'Oxford, érudite, ou de la mienne aujourd'hui, trop alphabétique. Un peu de celle d'Umberto Eco, qui rêvait d'un modèle de bibliothèque et qui disait, pour le citer, « Si la bibliothèque est, comme le veut Borges, un modèle de l'univers, essayons de le transformer en un univers à la mesure de l'homme. Ce qui veut dire aussi, je le rappelle, un univers gay, avec la possibilité d'un café crème. Et pourquoi pas, pour nos deux étudiants, de s'asseoir un après-midi sur un canapé, et je ne dis pas de s'abandonner à d'indécentes embrassades, mais de vivre un peu leur flirt dans la bibliothèque, pendant qu'ils prennent et remettent sur les rayons quelques livres d'intérêt scientifique. Autrement dit, une bibliothèque où l'on ait envie d'aller et qui progressivement se transforme en une grande machine pour le temps libre. »
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que représente une bibliothèque pour mon invité d'aujourd'hui? Elle est écrivain, vice-présidente en l'occurrence de l'association Bibliothèques sans frontières. Son dernier roman, Le chagrin d'aimer, apparu il y a quelques semaines. Il est question de livres, beaucoup. Elle y raconte l'histoire d'un amour impossible entre une mère et sa fille. Bonjour Geneviève Rizac.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, racontez-moi votre bibliothèque.
Alors ma bibliothèque, c'est un abri. Enfin, ma bibliothèque a beaucoup changé, comme la vôtre, d'après ce que je viens d'entendre. C'est un abri. Alors c'est un abri pour moi, puisqu'on peut s'y réfugier et découvrir toujours des livres que j'ai pas encore lus. Et puis c'est un abri pour les livres aussi. C'est-à-dire que je la conçois comme des rayons sur lesquels les livres sont regroupés par affinité. Et il s'en dégage une atmosphère, un genre d'âme. Et j'aime beaucoup faire des rapprochements, voir que Hannah Arendt se trouve à côté de Virginia Woolf, que Joyce Carol Oates finalement a rencontré, Edith Wharton, James Baldwin se met à côté de Robert Desnos.
Un lieu de protection, on l'entend, un lieu de rencontre, mais aussi un lieu de liberté, non? La bibliothèque.
Oui, puisque dans une bibliothèque, il n'y a pas d'hierarchie en fait. Tout le monde, c'est-à-dire les gens et les livres sont à égalité.
En quoi est-ce que le mot livre rime forcément avec celui de liberté, Geneviève Rizac? Certains disent que l'étymologie est proche.
Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est lié au fait qu'un livre est un objet qui se ferme et donc ce qu'on va y chercher, qui est à l'intérieur des revers de couverture, on ne peut pas vous en empêcher et on ne sait pas ce que vous y trouvez. Et ça, cette chose-là, c'est l'essence même de la liberté.
De
quoi ? Vous ne pouvez pas être vu.
De quoi vous ont-ils libéré, vous, les livres ?
Du chagrin. Du chagrin, de la solitude, du désespoir sûrement.
La première fois que vous avez été sauvée par un livre, vous vous souvenez, c'était quand ?
Très très bien. J'étais dans une sorte de clinique psychiatrique. J'étais enfermée et après des semaines, j'ai eu de nouveau droit à un livre. Et les livres sont arrivés sur une table roulante graisseuse. Il y avait une sorte de catalogue. La bibliothèque de la clinique n'était pas du tout bien fournie, mais les livres étaient rangés par genre. Et j'ai été chercher le genre drôle. Et donc j'ai lu, en fait les livres qui étaient rangés dans la catégorie drôle n'étaient pas si drôles que ça, mais je les ai tous lus.
Vous avez le souvenir d'un titre en particulier?
Oui, il y avait un livre de Jean-Charles qui s'appelait La foire au cancre. C'était complètement idiot.
Ça vous parle ça, La foire au cancre?
Ah oui, c'était rétro. Hein.
Cette expérience si intime, si forte, telle que vous la racontez, là c'est vraiment à l'auteur mais aussi à la lectrice et à l'éditrice que vous avez été que je m'adresse. Comment est-ce qu'on fait pour la partager, pour partager cet amour des livres, Geneviève Rizac?
C'est vraiment une question de... C'est exactement comme l'amitié, c'est une question de passion, c'est une question de désir. C'est une question de désir. C'est-à-dire, quand vous avez aimé un livre, vous souhaitez profondément que quelqu'un d'autre le lise, puisqu'un livre pas lu est un livre fané, un livre mort.
Ça, c'est quelque chose que vous partagiez avec votre mère qui est au cœur de votre dernier roman, Le Chagrin d'aimer. C'est une lectrice avant tout.
C'est vrai, c'est vrai. Elle s'était réfugiée dans les livres, très petite. Je pense qu'elle comprenait mal ce qui lui arrivait. C'était la fille de parents apatrides, grecs et arméniens. Et donc, elle avait été coupée de ses racines parce que les familles des deux côtés avaient répudié leurs enfants. Et donc, je pense qu'elle se sentait très désarçonnée et coupée de ses racines. Et quand on est coupé de ses racines, on le sait bien, ça arrive à énormément de gens encore aujourd'hui. Il n'est pas si facile de se construire.
Quelle lectrice est-ce qu'elle était ?
C'était une lectrice insolente. De toute façon, tout en elle était insolent. C'était une lectrice vorace de polar. Elle nous a appris à aimer Alexandre Dumas beaucoup, les romans policiers en général, la science-fiction, des revues de Troisième Rayon, et aussi les contes, beaucoup de contes et légendes. Tout devait être là.
Voilà ce que vous dites de la relation qu'entretenait votre mère avec la littérature, Geneviève Brisac. Je demande à Mélini pourquoi elle ne lit que des polars. Elle méprise toutes les autres littératures. C'est mou tout ça, et prétentiaire. Des dadames qui se regardent le nombril, des bons hommes qui se prennent pour Proust. La série noire, c'est chic, viril, dessalé. Elle pourrait en écrire, elle n'ose pas. Une taupe agonise, ma mère lit. Cigarette au bec, concentrée, acharnée, une vraie tueuse. Alors en lisant ces quelques lignes, la question qu'on se pose, c'est évidemment de savoir ce que votre mère pensait de vos propres livres, vous qui, à ma connaissance, n'avez jamais écrit de polar.
C'est vrai. Quand j'ai commencé mon premier livre, je pensais que ça serait un polar. Mais ça n'en était pas un.
Alors elle a dit
tant
quoi
pis, rien. Elle disait jamais rien.
Sur vos livres, jamais?
Non.
Ça vous a touché?
Bon, oui. Vous savez, il y a une très jolie scène de Flannery O'Connor, un écrivain que j'adore, qui raconte qu'elle donnait ses livres à lire à sa mère, et sa mère disait toujours « Pourquoi t'écris pas plutôt autant on emporte le vent ?» Et donc elle lui tendait le livre qu'elle venait d'écrire, et elle s'éloignait, enfin difficilement parce qu'elle était très handicapée, et elle trouvait sa mère endormie à la page 7.
Quel est le livre qu'elle aurait rêvé que vous écriviez ?
Ma mère.
Votre
elle
mère.
S'en fichait complètement, je crois.
Et qu'est-ce qu'elle aurait dit de votre livre de ma mère ? Celui-ci, pour reprendre l'expression consacrée d'Albert Cohen.
Je ne sais pas ce qu'elle aurait dit. Moi, j'ai l'impression de lui avoir offert quelque chose. Mais en général, les cadeaux regardent ceux qui les font. Et je ne sais pas ce qu'elle en aurait pensé. Peut-être qu'elle aurait dit « c'est bien écrit, au maximum ».
Vous l'avez posé cette question, je suppose, en écrivant le livre ?
Non.
Jamais ?
Non. Pas du tout.
Écrire des polars, vous auriez été prête à le faire pour faire plaisir à votre mère ?
Je ne l'ai pas fait. Je peux toujours dire que j'en aurais voulu, ou peut-être.
C'est une bonne question, n'empêche. Pourquoi est-ce qu'on écrit ce qu'on écrit, Geneviève Brisac ?
Alors, je crois vraiment qu'on fait ce qu'on peut. Hein. On écrit ce qu'on a à écrire. À une époque, je pensais même qu'on écrivait des livres, une conception un peu platonicienne de la chose, qu'on écrivait des livres qui étaient pré-écrits. En fait, il n'y avait qu'à les attraper. Et les écrire.
Enfin, ça demande du travail quand même. Ouais.
Pour les attraper, oui. Une sorte de fameux filet à papillons de Nabokov. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu vrai. Je pense qu'on est... de même que les peintres doivent peindre leurs tableaux, les compositeurs de musique composer leur musique, les écrivains sont là pour écrire leurs livres.
Des livres qui leur ressemblent toujours ?
Oui, certainement. C'est, enfin, en tout cas, qui ressemblent à leur voix, sûrement.
Votre mère, par exemple, elle écrivait des pièces radiophoniques pour RTL, des dramatiques. Pourquoi est-ce que c'était ça qui sortait, à votre avis, et pas des polars ?
Elle a adapté. Elle a traduit des polars. Elle a adapté des Agatha Christie, des Boileau-Narcejac, peut-être.
Mais c'est intéressant, cette forme, quand même, de dramatique.
Oui, c'est vrai. C'est
qu'est-ce que ça disait d'elle ?
Ça disait qu'elle voulait faire de la littérature populaire. Ça, c'est certain, et qu'elle ne voulait pas parler d'elle. Enfin, qu'elle en était, c'est même pas qu'elle ne voulait pas, c'est que c'était hors de question.
Elle écrit pour écrire, elle écrit tout le temps. C'est ce que vous écrivez, Geneviève. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Elle est à sa machine. Il y a trois objets qui définissent de manière un peu péréquienne cette femme. Il y a sa voiture, il y a ses cigarettes, et il y a sa machine à écrire. La Remington de série noire, quoi. On la voit, on l'imagine, avec ses touches comme ça en étage. Et je crois qu'elle est entrée dans, dans le monde de l'écrit à travers la machine à écrire qui lui permet de se protéger du reste. Hein.
La question que vous posez aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit en réalité, et vous ? Est-ce que vous avez fini par le savoir ? Pourquoi est-ce que vous écrivez ?
Parce que, bah, bon qu'à ça, je ne sais rien faire d'autre. Parce que j'aime ça. Parce qu'aussi, j'aime partager des émotions de lecture. Parfois, je doute de l'intérêt que ça peut présenter. Et puis, je lis un livre merveilleux. Et soudain, je me souviens que c'est la chose la plus importante pour moi.
Celle qui n'écrit rien dans cette émission, mais qui n'en pense pas moins, sans doute la connaissez-vous, c'est la culture et son actualité qui n'est pas analphabète, mais pieds et poings liés. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 28 mars ?
Livre Inter 2018.
Je vais essayer de les inciter à embrasser complètement ce qu'il y a derrière la littérature.
Livre Inter.
Voilà.
Que des numéros 10 dans notre team, les 10 livres retenus pour notre prix du Livre Inter 2018, présidé par la capitaine Leïla Slimani, viennent d'être révélés. Résultat, que des cadors sur le terrain. En défense, Yakuta Ali Kavazovic pour l'avancée de la nuit, Vincent Almendros et son Fermouche, Nathalie Azoulay pour les spectateurs. Au milieu, Joël Baquet avec La Fonte des Glaces, François-Henri Désérable pour un certain Monsieur Piekelny, David Lopez pour Fief, Yves Ravet pour Trois jours chez ma tante, et en pointe, Jean Rollin avec le traquet kurde Monica Sabolo pour Summer, et Chantal Thomas et ses souvenirs de la marée basse. Coup de sifflet final le 4 juin prochain. Eva Bétan veille au grain.
Vous êtes bien faite, on dirait.
Pas trop mal. Passez-moi le café.
Mais rincez-vous la tête au moins.
Ah, c'est infect. J'avais dit un sucre et demi, vous en avez mis deux.
Oh, je suis désolée. Voulez-vous que j'aille chercher une autre tasse ?
Non, j'en ai plus envie maintenant.
J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi capricieux. Vous êtes d'une exigence.
Et maintenant, partez.
Je ne comprends pas.
J'aime pas qu'on me voit nue.
Allons, allons, allons. Entre femmes, approchez. Venez. Attendez. C'est tellement mieux comme ça.
Stéphane Audran, Les Biches, 8 novembre 1932, 27 mars 2018.
Bienvenue au Louvre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite.
Une expo, c'est beau, deux, c'est dingo. Aujourd'hui, le Louvre-Lens inaugure l'Empire des Roses, chef-d'œuvre de l'art persan du 19e siècle. Première rétrospective française consacrée à l'art de la dynastie des Qadjars qui régna sur l'Iran jusqu'en 1925. Et sinon, le Centre Pompidou fait souffler un vent slave sur la capitale en proposant un accrochage inédit consacré à l'avant-garde russe avec plus de 200 œuvres majeures de Chagall, Lissitzky et Malevitch. On y court, Ovitch. Mercredi de grisaille, séance en pagaille, car aujourd'hui on se branche sur Ready Player One, le nouveau blockbuster high-tech et pop référencé du maître Spielberg. On se lèche les babines devant Carnivore, le thriller psychologique élégant des frères Reynier. Et sinon on s'accroche à The Rider, le beau rodéo initiatique d'un cow-boy indien signé Chloé Zhao. Yo! Pas que je tente les hi-ho comme ça. Geneviève Brézac, invitée de Boomerang ce matin pour le chagrin d'aimer. Ce livre où vous dressez le portrait, on le disait par images fragmentées, de cette mère inaccessible, cette mère dont vous ne parlez pas la langue, le grec. Quelle langue est-ce que c'est pour vous aujourd'hui ?
Le grec, une langue fascinante et impossible. C'est très très étrange, une langue maternelle à laquelle vous êtes étrangère.
Mais c'est ça.
Alors beaucoup d'amis m'ont dit mais apprends le grec. Mais je peux pas apprendre le grec.
Pourquoi?
J'ai appris le russe. Je sais pas.
Un blocage.
Oui. C'est sans doute ma langue, c'est le français.
Alors c'est intéressant parce que cette langue qui vous sépare, elle évoque aussi tout un pan de votre histoire familiale. Vous le disiez en creux, une histoire d'exil, de migration, de frontières. Dans quelle mesure est-ce que ce passé vous a construit, a nourri votre imaginaire?
Oui. Il n'a pas nourri mon imaginaire, il m'a construite dans l'ignorance. Et je crois qu'on écrit avec ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas. Je n'avais aucune idée de ce qu'a été la vie de mes grands-parents, vraiment des minuscules bribes. Mais quand je pouvais dire, par exemple, ma grand-mère maternelle avait un lionceau. Mais ça, au moment même où j'articule cette phrase, je n'y crois pas.
Oui.
Un lionceau, mais qui a... Or, c'est vrai, elle avait un lionceau, mais c'est pas crédible. Ma grand-mère maternelle était danseuse orientale à Paris en 1911. C'est vrai, mais c'est pas crédible. Elle s'appelait Lina de Varenne. Sans blague. On la surnommait Bilitis. C'est Je peux le dire, mais j'ai l'impression d'une imposture. Mon grand-père maternel s'appelait Bogossian Bey Missirl. C'est très joli, mais qui va le croire ? C'est des informations qui sont encore plus romanesques que la fiction la plus imaginative.
Et là où le livre est intéressant, c'est que cette histoire, elle invite quand même aussi à s'interroger sur des questions d'identité, toujours, tout le temps, et sur la façon, notamment, dont la France s'est construite. Quand vous regardez la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez, Geneviève Rizac ?
Je vois un pays en proie à des tensions absolument contradictoires. C'est un pays où énormément de gens sont des gens qui viennent de tous horizons et qui le savent, qui veulent accueillir des gens qui viennent du monde entier, comme ça a toujours été le cas. Par exemple, pour revenir une seconde sur cette famille maternelle, ils venaient tous en France parce qu'ils étaient fondamentalement francophiles, passionnés de culture française, de littérature française, et que ça soit à Athènes, à Thessalonique ou à Constantinople, c'était la France qui les attirait, et c'est pour ça qu'ils y venaient, pour fuir des persécutions, le génocide arménien. Et cette France-là, elle est faite, la France d'aujourd'hui, elle est faite de ces gens-là.
Comment ne pas penser, Geneviève Rizac, aujourd'hui à l'assassinat de Mireille Knoll, pour lequel l'enquête a reconnu le caractère antisémite ? Quelle a été votre première réaction, vous, qui dans « Vie de ma voisine » racontiez l'histoire d'une femme du même âge qui avait elle aussi échappé de peu à la rafle du Veldiv ?
Oui, absolument. Jenny Plocky, qui était l'héroïne de ce livre « Vie de ma voisine », j'en ai tout de suite parlé d'ailleurs avec Jenny, et toutes les deux nous disions que l'antisémitisme répugnant, dégoûtant, terrorisant n'est décidément pas une maladie guérie dans notre pays. Elle est toujours là sous des formes nouvelle, elle revit, elle repart. On croit que c'est fini, que ces haines-là sont taries, mais pas du tout. Elles repartent de plus belle. Et j'ai entendu Malek Bouti dire que les Juifs pouvaient ne pas se sentir en sécurité en France. C'est abominable. C'est tellement dégoûtant. C'est tellement. Et penser que des j'allais dire un très gros mot, mais enfin, des tarés peuvent assassiner de la manière la plus répugnante une femme rescapée de la Shoah parce qu'il pense qu'elle a des sous, parce qu'elle est juive, c'est tellement dégoûtant.
Aujourd'hui aura lieu une marche blanche en hommage à Mireille Knoll. Emmanuel Macron a réaffirmé sa détermination à lutter contre l'antisémitisme. À votre niveau, comment est-ce que vous luttez, vous ?
Mal, sûrement. Visiblement, c'est insuffisant. Mais avec toute mon émotivité, ma sensibilité, et puis les livres, et puis la parole, et puis aller dans les endroits où on peut partager, éduquer. Moi, je crois que seule l'éducation et le partage permettent d'isoler le racisme.
Je vous pose la question aussi, Geneviève Rizac, parce que vous n'avez jamais hésité à prendre position, à vous engager, à vous indigner aussi.
C'est vrai, c'est vrai.
On s'indigne assez ?
Sûrement pas. C'est certainement, on va dire qu'on est extraordinairement anesthésié, en fait. C'est-à-dire que les choses, les informations sont déréalisantes. C'est-à-dire un bombardement en Syrie, la Syrie qui était une des destinations de ma famille arménienne, des enfants assassinés, c'est tous les jours, et on est là et on dit je peux rien faire. Et moi, je crois qu'on peut toujours faire, c'est vrai.
Et cet esprit d'indignation, il vient d'où ? De qui vous l'avez hérité ?
Là, je crois que c'était assez bien partagé. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, je sais pas d'où ça vient. Enfin, ma mère était visiblement très, très rebelle, et mon père était effectivement un homme profondément révolté par l'injustice et la connerie.
Votre mère, qu'est-ce qui l'indignait ?
La connerie. Vraiment, je crois que c'est d'ailleurs, je ne sais plus, enfin beaucoup l'ont dit, c'est franchement la bêtise, la pire chose sur Terre.
On va en reparler. D'histoire d'amour impossible aussi, qui jamais peut-être n'a été mieux chantée que par Billie Holiday, I'm a fool to want you. Vous êtes sur France Inter avec Geneviève Brisac.
C'est drôle, j'ai écouté ça hier.
Vous écoutez Boomerang.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you.
can't be true. A love that's there are others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then once again, these words I'll have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. It's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Without you.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle a ce regard absolument fascinant, à la fois espiègle, chaleureux, un brin mélancolique avec cette crinière brune et bouclée de divinité, son profil ô combien mystérieux. On l'imagine au sommet du mont Olympe, lassivement allongé sur un nuage, jouant le destin de pauvres mortels comme d'autres jouent aux cartes, très élégante ce matin, chemisier blanc, veste noire et sautoire. Geneviève Brisac, invitée de Boomerang pour Le Chagrin d'aimer, un livre où vous vous effacez derrière ce portrait d'une mère insaisissable et étouffante. Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas par elle et pour elle que vous êtes née romancière ?
C'est possible. C'est possible. Je pense qu'on ne sait pas ce genre de choses. C'est certainement aux autres de le dire.
C'est un texte qui parle, pour ainsi dire, d'une naissance que vous nous avez écrit ce matin et qui n'est pas sans lien avec l'hommage que la chaîne a rendu à l'année 68 la semaine dernière. Et quelle meilleure façon d'entendre un écrivain que de l'entendre lire ses propres mots en guise de réponse. On vous écoute.
Ça s'appelle « La merveilleuse légèreté de l'être ». J'ai ouvert le journal. Divers mandarins reprenaient l'ancienne à laquelle 50 ans nous ont accoutumés. Le printemps 68 fut la source de tous nos maux. L'école fut détruite, l'individualisme, le laxisme et l'irresponsabilité triomphèrent. Une violence verbale stupéfiante, me dis-je. J'ai ouvert la radio. Des étudiants en grève à Montpellier racontaient comment ils avaient été attaqués et expulsés par des hommes cagoulés. Une violence physique éloquente. Et en fond, une sorte de rumeur. On commémore le sans doute incommémorable. Des images ont surgi de très loin. Loin, si loin de la violence des premiers, en écho aux espoirs des seconds, en contrepoint de la rumeur qui brouille le sens. C'est au Quartier Latin que ça se passe. Une fille de 16 ans est là. C'est son quartier, son boulevard, sa rue depuis toujours, depuis 16 ans, qui est son toujours. Si je suis écrivain, c'est que sans trêve, je cherche le mot juste pour dire précisément cela, l'événement qui résiste. En mars, le quartier a commencé à vibrer. Des parents ont envoyé leurs filles à la campagne, loin du bruit des sirènes de police et des slogans, loin des manifs. La vie au lycée s'est emplie d'assemblées générales. Dans mon souvenir, il fait beau, beau et chaud. Mais la mémoire météorologique est mensongère, comme les autres mémoires. Dès qu'elle a appris l'occupation de l'Odéon, la fille de 16 ans a foncé, comme ont accouru tous les badauds et tous les militants, tous les voisins et toutes les curieux. L'air est spécial, l'air de la rue, l'air des manifs, l'air du printemps, l'air de l'aventure, l'air léger et frais qui pousse à vivre et à croire et à ne rien prendre au sérieux, sinon l'immense joie de secouer d'invisibles chaînes, de parler à tout le monde, la merveilleuse légèreté de l'être. À l'Odéon, quelqu'un parle de la société du spectacle, quelqu'un se moque de l'orateur, de son ton pompeux. Elle s'avance, ses jambes tremblent et ses mains, comme au moment des charges de CRS d'une certaine façon. « Chasse le flic de ta tête », lui a dit un type il y a quelques jours à d'enfer Rochereau. Et depuis, elle essaye de comprendre ce que cela signifie. Ça veut dire y aller, oser, sortir de l'ombre, dire. Cela veut dire ne pas avoir peur, elle suppose. Alors elle monte à la tribune et elle dit « Au lycée, on occupe, on ne veut plus de cette manière d'étudier ». Elle cite l'abbaye de Thélème et elle le regrette instantanément. Elle ne dit pas qu'elles ont refusé le soutien paternaliste des garçons d'à côté. Non pas qu'elle n'ait pas eu envie de voir des garçons au lycée, de tomber amoureuse, au contraire, mais peut-être d'autres garçons. Ceux-là, les militants du noble lycée Henri IV, les vaillants samouraïs du lycée Louis le Grand, on se demande encore pour qui ils se prennent. Alors merci, pas besoin de vos leçons, gardez vos petits chefs chez vous. Elle ne dit pas l'odeur du marqueur noir, les grandes lettres sur les draps. Elle ne dit pas « on a un service d'ordre de filles ». Elle ne dit pas « on étudie la révolution de 1848, c'est notre préférée ». Parce que personne n'écoute. Et puis, elle voit très bien que ce n'est pas assez flamboyant, trop calme, trop artisanal, pas assez violent, pas spectaculaire. Des filles. Elle ne dit pas le plus important. Comment le 3 mai, une manifestation l'a détournée de son rendez-vous chez le psychiatre, censé maintenir son âme hors de l'eau boueuse du chagrin. Et comment soudain l'air était différent, plus aérien, plus léger, et les feuilles plus vertes. La légèreté, la merveilleuse légèreté de l'être. Une foule de filles et de garçons, marchant dans la même direction, et chantant les mêmes chansons, scandant les mêmes slogans. « Libérez nos camarades, nous sommes tous des juifs allemands », l'ont détourné à jamais des interférences de la cinématique, des ondes en tout genre, de l'effet Doppler et du calcul intégral. Alors elle arrive au lycée, elle monte sur une table, elle raconte l'Odéon, les usines Renault, les pufs qui se sont mises en grève, le soleil brille. En mai, cette année-là, il fait toujours beau et chaud. On sort les banderoles. Lycée en grève, solidarité, on part en cortège vers le boulevard Saint-Michel. Solidarité. Des lycéennes et des employés des pufs se sont trouvés. Des amitiés se sont nouées, des collectes n'ont plus cessé dans tout le quartier. Du moins, c'est ainsi dans mon souvenir. Tout uni pour un monde meilleur. Mais c'est du passé, me dit-on. Et pourtant aujourd'hui, je vois s'avancer là-bas, en Amérique, une foule de garçons et de filles qui marchent ensemble contre la violence, contre les armes. Ils sont un million de voix qui s'élèvent contre la bêtise. C'est inattendu, c'est prévisible, c'est la jeunesse, celle en laquelle jamais je ne cesserai de croire. La jeunesse qui surgit, ressurgira encore et toujours pour un monde meilleur.
Alors on garde espoir.
Mais oui.
Geneviève
Brézac. C'est mon cas, en tout cas.
Toujours ?
Oui.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Le Chagrin d'aimer, votre si beau livre, est publié chez Grasset. Je rappelle pour celles et ceux qui ne sont pas loin de Radio France aussi ou qui projettent d'y passer que vous pouvez désormais déposer vos livres dans notre boîte prévue à cet effet puisque la radio publique s'engage auprès de Bibliothèques sans frontières. Vive le livre, vive les bibliothèques et vive Sonia De Villars et son Instant M qu'on retrouve juste après ça. Thank you.
que le sentier que nous
L'offrande Barbagallo sur France Inter.